Alors, on attendait hier une décision concernant la saison des capitales de Québec. Et finalement, c'est plutôt lundi, en théorie, là, qu'on devrait avoir cette réponse-là. Qu'est-ce qui va arriver avec la saison des capitales? Tu sais, dans le journal, il écrivait « La décision a été repoussée, donc les capitales achètent du temps ». Mais 2-3 jours, je sais pas, tu sais, c'est quand même pas beaucoup de temps, là. Tu sais, on n'a pas réussi à acheter 2-3 semaines.
Mais on peut recevoir un fax en 2-3 jours.
Oh, t'as raison. Alors, on parle avec Michel Laplante, qui est président des Capitales de Québec. Bonjour, Michel.
Bon matin, monsieur.
Bon, là, c'est ça. Écoute, on s'attendait peut-être qu'il y ait une décision hier. À quel point ça peut vous aider d'avoir réussi à acheter 2-3 jours, là, comme on peut lire dans le journal?
Ouais, ben en fait, c'est tellement compliqué tout ça parce qu'on tente de jumeler 3 équipes en même temps dans un en forme d'équipe itinérante, donc qui débalance le calendrier puis qui vont jouer surtout là-bas. C'est des villes qui accueillent on accueille normalement à peu près 45-48 matchs par année. Là, ces villes-là passent de 48 à 62-63 matchs parce qu'on vient pas jouer à Québec avant, mettons, le 1er juillet, c'est ce qu'on proposait. Donc, comment on fait pour rentrer ça dans tout leur calendrier? C'est pas évident. C'est pas, en fait, possible pour certains. Donc, là, on est en train de voir, ben, c'est quoi l'alternative à tout ça si on veut pas le faire avec 3 équipes? Est-ce qu'on peut le faire avec 2? Est-ce qu'on peut le faire avec 1? Puis, juste comprendre, là, rapidement, là, puis je veux pas aller dans le trop technique, là, mais on peut pas jouer au baseball de façon impaire. Donc, on pourrait pas avoir, exemple, 15 équipes en tout parce que il y aurait 7 équipes qui affronteraient 7 équipes, puis il y en a toujours une qui jouerait pas pendant 3-4 jours, ce qui se fait pas au baseball. Donc, faut arriver à un nombre d'équipes paires. Donc, c'est ce qui complexe, qui devient un peu complexe dans tout ça.
Je me trompe-tu en disant que ce serait pas tellement compliqué pour les équipes canadiennes, donc Ottawa, Québec et Trois-Rivières, d'aller jouer la majorité de leurs matchs aux États-Unis, mais l'inverse serait plus compliqué de faire venir les équipes américaines au Québec et à Ottawa?
En plein ça, dans le sens que nous, on veut pas concéder la saison complète. Donc, ce qu'on dit, c'est que, bon, on voit assez clair pour comprendre que avant le 1er juillet, ça va être difficile d'amener des joueurs ici. Mais si c'était possible, après le 15 juillet, après le 18 juillet, d'amener des joueurs ici, ben nous autres, les 20-25 matchs qu'on aurait en extra, ben, on le prendrait au lieu de dire tout de suite que jusqu'au 12 septembre, il n'y a pas possibilité de... Et je pense que si après le 24 juin, la plupart des gens sont vaccinés, les Américains sont vaccinés, qu'on était capable d'ouvrir la frontière le 15 juillet, exemple, je pense qu'on s'en voudrait beaucoup de ne pas avoir fait l'effort nécessaire pour au moins jouer une 20aine de matchs entre le 15 juillet et le 15 septembre à l'intérieur de ces 2 mois-là au Québec.
C'est clair que pour les partisans, en tout cas pour les gens de la ville de Québec, ça, on souhaite tous d'avoir du baseball au stade, mais pour l'organisation, la possibilité de jouer peut-être sans spectateurs, à quel point c'est soutenable cette idée-là?
Non, c'est pas soutenable. C'est pour ça qu'on le voit pas avant le 1er juillet. C'est sûr que si on fait une règle de 3 avec spectateurs, sans spectateurs, ben ce qu'on se dit, puis ce qu'on a quand même un peu comme signal à la santé publique, c'est que si on permet d'avoir 25% ou presque là, de gens à l'intérieur dans le cinéma ou dans des salles de spectacle, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 25% à l'extérieur? Donc, ça donne quoi, 900 000 spectateurs au stade. Mais si on est capable de le faire pendant 20-25 matchs, pourquoi pas? Donc, on veut pas céder la saison complète aux États-Unis. On tente de négocier avec eux autres d'avoir la flexibilité que si les nuages se dispersent un petit peu au 15 juillet, ben qu'on ait au moins la chance de présenter à nos fans un peu de plaisir dans notre été.
Et puis je niaisais tantôt avec les 2-3 jours, à quel point c'est beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, mais je calcule ça, là, tu sais, la santé publique puis le gouvernement parle beaucoup de la Saint-Jean comme étant un moment où les gens auraient reçu leur première dose de vaccin. Puis on dit aussi que ça prend 3 semaines avant que la première dose immunise les gens. Donc, dans le fond, 15 juillet, là, c'est pas mal exactement 3 semaines après la date butoir que la santé publique s'est fixée. Est-ce que vous avez quand même un espoir peut-être qu'il y ait plus que 25% des gens dans le stade?
J'ai pas fait mon budget à plus que 25, mais oui, effectivement, rendu là, tu te dis, écoute, ça pourrait être 50% ou tout ça, mais en fait, on va... C'est pas évident tout ça, mais là, on est dans le noir total. Là, ça va pas bien, les gens. Là, on n'a pas eu de bonnes dernières semaines. Mais tu sais, on regarde ce qui se passe dans les pays qui atteignent 70% de vaccination, comment ça change radicalement. Donc, c'est possible. On voit ce qui arrive en Angleterre, on voit ce qui se passe en Israël, tout ça. Donc, c'est possible que dans deux mois, ça ait beaucoup plus de sens que ça en a présentement, surtout avec l'été qu'on a eu l'année passée. Puis, comme je dis, là, on peut pas se permettre d'annuler complètement la saison s'il y a un petit espoir qu'on soit capable de jouer. Mais ce qu'on demande à la Ligue est complexe, parce qu'ils disent, ben écoutez, comment on fait pour placer dans notre calendrier qu'on joue à Québec le 28 juillet et qu'à la dernière minute, on va jouer dans notre stade le 28 juillet parce que finalement, la frontière est pas ouverte. Donc, c'est quoi le mécanisme dans tout ça?
C'est ça?
Et on nous en demande pas mal. C'est pour ça que ça paraît pas beaucoup trois jours de plus, mais ça fait deux mois que je les repousse. À toutes les semaines, je dis, écoutez, on va avoir de plus de nouvelles la semaine prochaine. Donc là, je pense qu'ils en ont assez du fait que je repousse à chaque fois.
Je veux pas être donnant, Michel, mais en même temps, parce que tu sais, toi, t'es là-dedans tout le temps, puis je comprends l'impact que ça peut avoir sur le moral. Nous, c'est parce qu'on s'en inquiète que je te pose la question, mais c'est quoi les conséquences réelles pour les capitales de Québec si jamais vous arrivez à la conclusion que la seule solution, c'est annuler la saison?
C'est un gros impact parce que surtout dans le cas de Québec, là, on est quand même le gestionnaire du stade, de tous les événements qui se passent. Donc, cet été, si on les capitales ne peuvent pas jouer, on va tenter comme l'an passé. L'an passé, là, le stade a été plein à peu près 12 heures par jour, tous les jours. Donc, ça a été du baseball mineur, du softball. C'est complètement occupé tout le temps avec les règles, évidemment. Mais le terrain se redivise en trois terrains moustiques, en trois terrains à tombe, en deux terrains pee-wee. Et du matin au soir, il y a des camps, il y a des matchs. Donc, on fait la gestion de tout ça. On s'est impliqué avec CDV, le complexe de baseball Victoria, où ce qu'on a fait un emprunt de 4,3 millions. On prend la gestion dans le stade de tous les événements qu'il y a. Donc, il y a ça aussi qu'il faut tenir en ligne de compte. Puis, cette structure-là, où les capitales sont au cœur parce qu'ils en prennent la gestion, ben, si les capitales tombent, ben, on vient de perdre plus que du baseball professionnel.
Michel, parlons un petit peu plus de en espérant évidemment qu'on aille au stade cet été pour applaudir les capitales puis vivre l'ambiance du baseball. C'est tellement le fun au stade Canac. Mais je veux revenir sur ma nouvelle de la semaine. C'est le sport le plus conservateur de la planète, le baseball. Le baseball majeur envisage la possibilité de reculer la plaque du lanceur d'un pied pour qu'il y ait moins de retrait au bâton. On trouve qu'il y a trop de retrait au bâton dans le baseball majeur. Tu étais un lanceur, tu l'as encore dans l'âme, je pense, puis dans le cœur. Comment tu vois ça, cette possibilité-là de changement?
Ben écoute, on est deux puristes hier, donc oui. c'est pas évident. Puis certains vont dire, ben écoutez, en reculant, il va y avoir moins de retrait sur trois prises, puis on va permettre, parce qu'on parle de différence en perception de mille à l'heure. Le lancer moyen dans les dernières années était autour de 93 heures. Mm-hmm. Et en reculant la plaque, en illusion, c'est comme si on retournait à 91 mille à l'heure de moyenne. C'est donc ça. On va donner la chance au frappeur de mettre plus de balles en jeu. Mais l'attitude du frappeur dans les dernières années, parce que c'est ce qui est payant quand tu vas en arbitrage, c'est le nombre de circuits que tu frappes.
Ouais.
Et évidemment que tu t'élances pour la longue balle, ben t'augmentes ton nombre de retraits sur trois prises. Et c'est tout le baseball, je pense, qui fait une erreur dans son ensemble en changer ce volet-là. Moi personnellement, je vais voir un match, ça se termine 5-4, puis j'ai vu 6 circuits. Je suis pas plus excité que si j'ai vu un match de 5-4. Puis qu'il y a eu plus de vols de but, des coureurs avancés, il y a eu plus de stratégie, puis moins de circuits. Donc, stratégiquement, je pense qu'il y a plein de gens impliqués. Puis, faut juste retourner là au milieu des années 90, quand tout ça a changé. Il y avait plus de vols de but. Vous vous souvenez des Marquis Grissom à l'époque.
Les belles luttes dans le temps entre Omar Moreno puis Ron LaFleur avec les Expos, là.
Ouais,
c'était le fun. Il y avait 100 buts volés par saison. Là. Si t'en as 30, c'est une grosse saison.
Oui, ben moi, je trouvais ça excitant. Puis là, savoir est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va voler le but, puis tout ça. Et je pense que c'était en 94, puis ça a été vraiment un tournant dans l'histoire. Marquis Grissom se présente en arbitrage avec ses 81 buts volés, je crois, cette année-là. Et ça a valu absolument zéro. Donc, quand on l'a attaqué, on a parlé de puissance, de circuit, de points produits. C'était un très bon joueur défensif, un joueur d'équipe. À partir de ce moment-là, les agents, les joueurs ont dit, ben, vous savez quoi, on crédite pas de points pour ça. Le salaire est augmenté parce qu'on fait certains petits détails dans le jeu comme ça. Fait qu'on va y aller pour la longue balle, on va y aller pour qu'est-ce qui est payant. Puis malheureusement, ça fait moins un jeu d'équipe. On y va pour la longue balle, il y a moins de stratégie puis tout ça. Donc ce petit côté-là, pour moi, il est décevant. Puis on a plein de leçons dans les dernières années dans le sport. On regarde Saint-Louis au hockey qui gagne il y a 2 ans ou 3 ans la Coupe Stanley. Il devait pas gagner, mais il y a quelque chose qui se mesure pas encore dans le sport et qu'on tente de mesurer tout pour donner une valeur. Et tout ce qui est esprit d'équipe qui se fait en dessous qu'on voit pas. Federer, Nadal, Djokovic sont numéro 1, 2, 3 depuis 15-20 ans. Puis on a beau analyser, puis on dit non, c'est pas la rotation de la balle, c'est pas la vitesse, c'est pas le service. Il y a quelque chose en arrière de tout ça qui fait qu'ils sont meilleurs, qui est pas mesurable. Puis on dirait que ça chatouille un peu la science de pas arriver à le trouver, puis on tente de le trouver le plus possible.
Le fameux momentum.
Le momentum, mais en dessous de tout ça, il y a l'intelligence, il y a comment tu supportes la pression, il y a comment le coach réussit à amener tout le monde du même côté. On vient d'avoir l'exemple encore avec Brady. C'est pas le gars qui se déplace le mieux, c'est pas le bras le plus puissant. Qu'est-ce qui fait qu'il gagne? C'est quoi cette raison-là? Puis c'est très dur à chiffrer la raison qui fait qu'il arrive à gagner.
Sauf que le nerf de la guerre dans le sport professionnel, c'est l'argent, puis les coups de circuit, ça vend plus, c'est plus marketing qu'un coup réfrappe.
Oui, probablement. En tout cas, c'est ce qui en déduise présentement. Est-ce qu'à long terme de tout faire pour le circuit? Moi, je vois les highlights de sport, là, le matin, je regarde ça le soir avant de me coucher, puis je suis tanné de voir circuit. On peut-tu me montrer de temps en temps un beau jeu défensif, une balle à double jeu? Là, tu sais, c'est pas ce qu'on voit même qu'on veut montrer dans le sport. Puis moi, je suis plus vieux jeu, je pense.
Merci, Michel, d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est toujours bien intéressant de parler avec toi. Puis sincèrement, on est de tout cœur avec l'organisation des Capitales. On se croise les doigts, on espère que ça marche. Et puis on salue le travail que tu fais depuis des mois.
Ben merci. On a une bonne fin de semaine devant nous. Ça a déjà commencé ce matin.
On se croise les doigts.
Merci, Michel.
Merci.
Salut. Bye. Michel Laplante, président des Capitales de Québec. Sincèrement, je connais rien au baseball, mais Vez, je vous écouterai parler, toi puis Michel, pendant des heures. Ouais. Je connais pas les noms des gars que tu as cités, mais je trouve ça tellement hot, je trouve ça tellement intéressant.
Il y a juste les plus vieux qui se souviennent de ça.
Écoute-moi, pour te donner une idée de mon niveau, t'étais là la fois où on avait visité le stade il y a 2 ans, l'été passé.
Oui, oui.
Puis Michel, il nous avait fait une pratique au bâton.
Ouais, ouais.
Tu sais, Michel Laplante, il était lanceur baseball majeur. Fait qu'on s'entend, lui, s'il décide de lancer à balle... Ouais, c'est ça. S'il décide de lancer à balle tout le temps à même vitesse, puis exactement au même endroit, il est capable. Mm-hmm. C'est la meilleure personne pour te donner des balles de baseball. Mm. Puis même quand il m'en donnait, je trouvais qu'il arrivait vite. Mais l'idée de reculer la plaque puis 93 au lieu de 91, tu comprends que moi, les chiffres, je les connais pas, mais le principe est intéressant.
Ouais.
Le principe selon lequel, dans le sport professionnel, c'est assez incroyable quand même que dans ce sport-là, dans le fond, c'est comme si au hockey, la seule affaire qui compte, c'est marquer des buts. Je comprends que c'est important de marquer des buts.
Sur des slap shots.
Sur des slap shots,
sur
réception.
Des one-timers, encore. Oui, c'est ça.
Fait que ce que Ovechkin fait, là, Ovechkin, il gagnerait 20 millions par année, puis les autres, Kyle Connor, il est capable, il le fait, parfait, on lui donne 20 millions par année. Mm. Mais celui qui construit le jeu, là, lui, défenseur central, la charnière centrale, ça vaut rien.
Ouais. Puis tu sais, quand je disais d'entrée de jeu que le baseball était le sport le plus conservateur, la plaque du lanceur est à 60 pieds 6 pouces du marbre depuis 1893.
Quand les balles ont accéléré un peu depuis, j'imagine.
Oui, c'est le sport qui a subi le moins de changements. Oui, il y en a eu quelques-uns récemment. Frappeur désigné qui est arrivé dans les années 70. Là, depuis une couple d'années...
Récemment?
Là,
50 ans.
Mais là, depuis une couple d'années, quand on arrive en manche de prolongation en supplémentaire, on place un coureur au deuxième but en partant. Donc, on a, tu sais, des matchs de 18 manches, il n'y en aura plus. Là. Mm-hmm. Puis c'est mieux pour les lanceurs. Mais juste mentionner, petite note historique, quand le baseball a été créé dans les années 1800, début des années 1800, le premier quart de ce siècle-là, les lanceurs, en fait, leur job, c'était quasiment de la balle donnée. Ils lançaient par en dessous. Et le but, c'était de permettre au frappeur de frapper, puis de permettre à la défense de faire un jeu. C'était juste ça. C'était de la balle donnée carrément.
Ah, oh, ouais.
Puis, à un moment donné, les lanceurs ont compris qu'ils pouvaient peut-être avoir plus de vélocité en lançant un petit peu de côté. Puis là, il y a les balles des prises qui ont été introduites aussi. Puis là, les lanceurs pouvaient lancer par-dessus. Et c'est un peu... Au départ, c'était à 45 pieds. On lançait par en dessous à 45 pieds.
Puis là, c'est 60 pieds.
Puis là, c'est 60 pieds, 6 pouces.
Par-dessus.
Mais ça a été un jeu de essais-erreurs, nombre de points par match, nombre de spectateurs que ça attirait aussi. On s'est ajusté à tout ça jusqu'à ce qu'on en vienne en 1893 à dire, OK, c'est 60 pieds, 6 pouces.
Et on ne touche plus jamais.
Ça n'a pas bougé depuis ce temps-là.
Et on ne touche plus jamais.
Jusqu'à maintenant. Mais comme Michel dit, c'est une mentalité qui a changé. C'est maintenant, quand tu t'en vas au bâton, c'est pour frapper un circuit.
Mais
ça augmente le risque de faire des retraits au bâton aussi.
Mais question, Vez, le baseball, c'est international. Tu sais, en Asie, c'est hyper fort, en Amérique du Sud.
En Europe aussi un peu,
oui. Là, c'est la MLB qui veut reculer ça d'un pied ou c'est toutes les grandes ligues?
Ben, en fait, c'est le baseball majeur qui veut éventuellement. Et on a demandé à la Ligue Atlantique, qui est une ligue indépendante, à partir du mois d'août, de reculer d'un pied.
Pour tester.
Pour faire des tests. Alors, on va voir les effets que ça va avoir. Et si les effets sont concluants, ben là, le baseball majeur va approuver et l'appliquer dans ses...
Mais quand tu dis le baseball majeur, là...
C'est Ligue américaine, Ligue nationale.
C'est ça, mais donc ça comprend pas les ligues au Japon ou ailleurs.
Non. Généralement, le baseball majeur va dicter. C'est un peu comme au hockey. La Ligue nationale de hockey décide de faire des changements de règlement, mais souvent vont demander à la Ligue américaine de faire le test.
Mais on pourrait se retrouver avec le même phénomène, justement, qu'au hockey, avec, à certains endroits, des patinoires plus grandes, plus petites. Tu sais, le football canadien, le football américain, les règles ont changé à travers le temps. On pourrait se retrouver quand même, malgré tout, avec la MLB, qui est quand même la meilleure ligue au monde, qui recule d'un pied, puis au Japon, il recule pas d'un pied, mettons.
Ouais.
Ça serait étonnant, mais...
Généralement, on s'ajuste aux ligues les plus importantes.
OK. 9h31 minutes, fort, fort intéressant, Vez. Écoute, comme je te dis, moi, le baseball, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais tu m'intéresses au bout avec ça. C'est vraiment intéressant. 9h32, on vient, ce sera pas long.
Que Québec se lève.
De retour après la pause.